présence, 19h. Sportez-vous bien. Sportez-vous bien, l'actualité sportive commentée par Jean Sureda.
Bonsoir à tous et bienvenue dans Sportez-vous bien sur Radio Présence. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h pour débattre de l'actualité sportive de la semaine avec des invités qui font le sport de haut niveau. Au programme ce soir, vous avez l'habitude, ce sont les éternels coups de cœur et coups de gueule de nos chroniqueurs. Maxime Brossard, ce soir, vous donnera un agenda de la semaine un petit peu particulier, on en reparlera tout à l'heure. Et le débat avec le début, bien évidemment, de la Coupe du Monde féminine de la FIFA 2019. Et enfin, en lien avec le débat, nous recevrons Olivier Echoafni, l'actuel entraîneur du Paris Saint-Germain féminine. Avec nous ce soir, la grande première en studio, Coraline Camebrac. Bonsoir Caroline.
C'est ça, Coraline. Bonjour.
Maxime Brossard, bonsoir Maxime.
Salut.
Et Timothée Rouvière, bonsoir Timothée.
Bonsoir Jean.
La première de Coraline.
Eh oui, les grands débuts.
En studio.
En studio, en studio,
ouais. Parce que normalement, je suis de l'autre côté, je suis quand même là.
Exactement. Les auditeurs ont déjà entendu Coraline. Malheureusement, on parlait de Pau.
On parlait de la section paloise.
De la section paloise.
Mais là, c'est fini de toute façon. Là, donc, il ne peut rien arriver. Hein.
Là, c'est terminé. Mais
la douleur est
terminée. Voilà, vous avez été bien accueillis. Ça va, vous êtes bien en place.
Tout va bien.
Et
tout va bien.
Elle a un casque à son nom. Parce qu'on a Star. Des casques, nous, dans les studios. Et moi, ouais. J'ai un casque avec mon nom et le nom de l'émission. Et Timothée, tout à l'heure, m'a dit « Mais regarde, il se la pète, etc. »
Mais non, mais ils font les malins, tous les deux, depuis tout à l'heure.
Regardez, Coraline, elle a aussi son nom.
Mais non, mais tous les deux, ils ont leur casque personnalisé. Ils disent « Oui, c'est agréable pour les oreilles. »
Mais c'est l'hygiène, tout simplement.
Nous, avec Maxime, on se retrouve avec nos casques, etc. Nous, on partage. Alors que vous, c'est vos casques, etc.
Ça marche, c'est l'essentiel.
Excusez-nous, nous sommes très très haut. C'est pour ça. Bon, qu'est-ce que vous avez fait de votre week-end, Maxime Brossard ?
J'ai travaillé, ouais.
Chaleur, hein ?
Ouais, j'ai travaillé, donc, mais j'étais au frais, j'étais dans les bureaux, je montais les pages du journal, ouais. Voilà.
À la dépêche. Et vous, Timothée ?
Pareil, moi j'ai travaillé à 2PRL, donc au frais, mais voilà.
Et l'événement, ce soir, c'est pas du sport, c'est de la télévision, c'est
du
grand cinéma.
Bien sûr. Voilà. Toujours,
comme d'habitude, du très très grand cinéma.
Le 7e art.
Je dois vous bassiner, cher auditeur, avec ça.
Mais
voilà, exactement. Je dois vous bassiner avec ça quand même. Mais je suis obligé parce que je suis un fan. C'est pas Joséphine Ange-Gardien, comme vient de dire Coraline. C'est l'autre, c'est Camping Paradis. Ouais. À Maxime, faites-moi plaisir, regardez avec moi ce soir.
Non, je vais pas faire ça.
Il y a autre chose de mieux à faire.
Ouais, c'est catastrophique. Non. J'ai vu qu'il y avait la Palme d'Or il y a pas longtemps. J'ai été étonné de pas voir Laurent Ournac présent pendant la séance, pendant la cérémonie. Donc je me suis dit, ouais, ils n'aiment pas le cinéma. Ces gens n'aiment pas l'art.
Vous voulez une info exclusive ? Allez. En fait, il a refusé la Palme d'Or.
D'accord.
Il fait ça pour son public.
Ah, c'est ça. Vous êtes son plus grand fan. C'est comme ça que vous avez eu l'info, en fait.
Exactement.
Il s'est confié à lui.
Exactement. Bon, je vois que vous êtes prêts, messieurs, dames. On démarre maintenant avec les coups de cœur et les coups de gueule.
Sportez-vous bien, les coups de cœur et les coups de gueule.
Chaque semaine, vous nous parlez d'un événement qui vous a marqué, une déception, une joie. Et il y a une nouveauté. On innove encore au mois de juin.
Eh oui.
Nous avons eu des coups de cœur, des coups de gueule, des coups de déception, des coups de tristesse.
De larmes, ouais.
Innovation avec vous, Maxime Brossard.
Eh oui, toujours, à la pointe d'innovation.
Un coup de tonnerre, bien évidemment, on va parler de boxe, parce que ce qui s'est passé dans la nuit de samedi à dimanche, c'est tout simplement incroyable.
Et oui, les amateurs de boxe ont été foudroyés, comme Anthony Joshua, en fait. Le grand boxeur, le champion des poids lourds, le détenteur des ceintures WBA, IBF et WBO.
Donc les trois plus grosses ceintures au monde.
Voilà, c'est le champion, on va dire, un peu toute catégorie. Il affrontait un américano-mexicain qui s'appelait Andy Ruiz. Ça se passait à New York, au Madison Square Garden. Et Joshua a connu la première défaite de sa carrière.
Et on va pas mentir, le physique de son adversaire, de Ruiz, c'est le mien. Hein.
Il est un peu plus enveloppé que vous encore. Hein.
Ouais,
il fait 121 kilos. Il fait...
Ouais,
voilà, et en plus, pour la petite histoire, ce Andy Ruiz a réussi en fait à remplacer le combattant qui devait à la base se battre contre Anthony Joshua par une proposition qui a été faite sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'Anthony Joshua devait se battre contre Jarrell Miller à la base. Mmh. Ce dernier a été contrôlé positif pour des produits dopants. Et du coup, Andy Ruiz a sauté sur l'occasion, a dit « Écoute, moi je veux bien le remplacer au pied levé, j'ai que 5 semaines pour préparer, mais si tu veux, je viens, on fait le combat, et comme ça, ça évite de faire chuter le prix des places et de désorganiser tous les événements qui avaient été mis en place. »
Vous qui suivez la boxe très très régulièrement...
Oui.
parmi tant d'autres, mais oui. C'est quand même l'un des plus gros exploits du sport quand même.
Ouais,
parce
oui,
que
oui,
c'est,
oui,
c'est un truc, mais enfin,
c'est retentissant.
On pensait que ça allait se terminer quand même, on va pas mentir, en 2-3 rounds, oui, mais pas de ce côté-là quand même.
Oui, oui, après, en fait, c'est-à-dire que c'est un peu comme si...
Il l'a pris de haut ou c'est vraiment... Il était,
Non, il l'a pas pris de haut, c'est pas du tout le style de Joshua. Il y a deux explications à cette défaite, donc il faut savoir qu'il est allé quand même 4 fois au tapis. Il avait réussi à mettre Andy Ruiz au tapis dans...
Le faire tomber,
le mettre knockdown, donc l'arbitre l'a compté. Mais Andy Ruiz s'est relevé, il avait une mâchoire d'acier, on va dire que c'est comme presque s'il avait rien senti. Et ensuite, il s'est déchaîné sur Joshua, puisqu'il s'est dit, j'ai plus rien à perdre. Et il a réussi à toucher le champion, et ensuite Joshua était complètement déstabilisé jusqu'à perdre le combat, en fait.
Timothée Rouvière, c'est là où on voit que le sport, c'est quand même quelque chose d'unique. Même que ce soit le foot, le rugby, le handball, la boxe, c'est quand même incroyable.
C'est vrai que c'est incroyable, c'est un exploit. Maxime, vous confirmerez mes propos, mais je crois que c'était la première fois au Madison Square Garden.
Oui.
Donc premier, quand même, voilà, ils avaient mis l'événement
en
place.
Une des plus grandes salles au monde.
Voilà, il y avait beaucoup d'argent en jeu, et tout le monde misait sur la victoire d'Anthony Joshua. Et c'est vrai que là, on tombe un petit peu de haut. Mais c'est aussi beau, ces retournements de situation. On pense que les choses sont figées, mais le fait que tout soit remis en place, ça va permettre à d'autres garçons de s'affirmer. Et j'aimerais quand même voir certaines... Alors, je pense à un garçon qui s'appelle Deontay Wilder, qui est un peu mégalomane. Et s'il pouvait subir une défaite de ce style, ça pourrait le remettre un peu à sa place.
Ça peut être contre moi, parce que
honnêtement, pourquoi pas, si vous voulez utiliser la technique d'Andy Ruiz, proposer un combat à Anthony Joshua. Il faut savoir qu'il y aura quand même la revanche qui est prévue contre Andy Ruiz, mais elle va se passer au Royaume-Uni, elle est déjà prévue, je ne sais plus la date exactement. Et donc oui, je disais deux raisons, on va dire, à cette défaite. Donc déjà, la première, c'est Ruiz est finalement un meilleur boxeur qu'on croit, et la deuxième, c'est Joshua, qui était peut-être tombé un petit peu dans une routine à force de se battre contre des combattants moyens et de ne pas faire des gros combats.
Voilà. C'est un exploit comme on les aime dans le sport. Il y a eu un autre combat, alors cette fois-ci c'était en un contre un, mais il n'y avait pas eu de contact. On va partir à Roland-Garros, c'est le coup de cœur de Coraline. C'est vrai que le match d'hier entre le grec Tsitsipas et le suisse Wawrinka, un peu plus de 5 heures de jeu,
5 heures et 9 minutes exactement,
c'est le meilleur match du début de l'année 2019. On est d'accord.
Déjà le meilleur match de Roland Garros déjà de 2019, ça c'est sûr et certain. Meilleur match quand même de 2019, je pense. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu un match comme ça entre le grec Tsitsipas qui est 6e au classement ATP, donc c'est pas rien quand même.
Classement mondial.
Ouais. Et Wawrinka le suisse 28e. Match en 5-7, donc il y a eu du suspense, mais jusqu'au bout, on pouvait même pas dire, en fait, au 5e set, on pouvait pas dire qui allait gagner, c'était impossible à savoir. Donc très très beau match, deux bons gros guerriers.
C'était vraiment un décis, comme l'a dit Coraline, et de toute façon il n'y a pas photo, c'est le plus gros match. C'était presque prévisible, c'est vrai que Federer, Nadal, Tim malheureusement qui a battu tout à l'heure le français Gaël Monfils, mais voilà, c'était des têtes de série qui ont, sans faire offense à leur adversaire, pas pris vraiment de gros adversaires. Là c'est le premier gros match du tournoi. On a été servi. Hein.
Alors c'est vrai que c'était prévisible. On est face à deux joueurs. Alors d'un côté Tsitsipas qui a seulement 20 ans, qui est monstrueux sur terre battue. Il faut pas oublier qu'il a 20 ans ce garçon. Ouais. Ça fait seulement 6 mois qu'il s'est révélé au grand public et il a tout l'avenir devant lui. Et Wawrinka qui a gagné en 2015, oui, qui avait eu un an et demi, deux ans compliqué. Il est redescendu au-delà de la 20e place mondiale et là qui revient, qui se bat. Et surtout, oui, moi je suis d'accord avec vous. Hein, c'est pour moi le plus beau match du tournoi en tout cas. Mais surtout, on est face à un affrontement entre deux joueurs qui ont une grosse frêle de balle, qui sont agréables à voir jouer, et c'est pour ça que ça a donné du spectacle.
Et c'était magnifique d'ailleurs, Wawrinka qui va affronter Federer, son compatriote suisse. Gros match encore une fois, je pense que ça va faire aussi un petit match en 5-7, enfin, ça m'étonnerait pas en tout cas. Et Wawrinka qui avait d'ailleurs gagné Federer, il me semble, juste avant qu'il prenne sa retraite de Roland-Garros.
Donc gros match. Là, le danger, il est là pour Federer. Là, on va vraiment voir Federer à Roland-Garros 2019. Parce que, encore une fois, c'est pas faire offense aux adversaires. On l'a vu avec la boxe que même si l'adversaire est entre guillemets plus faible, on peut les battre. Mais c'est vrai que Federer n'a joué presque personne depuis le début du tournoi. Là, il va prendre du très très lourd. Là.
C'est vrai que Federer, ça faisait
deux ans
deux ans qu'il n'était pas venu sur Roland. Il a un petit tour de chauffe et tout. Ça a été un peu plus, pas compliqué contre son adversaire précédent, mais Federer, il a eu des adversaires à sa hauteur, à sa mesure. Moi, je mets vraiment une pièce sur Wawrinka. Il a une frappe lourde. Il arrive bien à se déplacer. Il revient très bien de blessure. Et surtout, surtout, il a joué des matchs, comme là on l'a vu contre Tsitsipas, donc il a l'habitude des gros cogneurs, des gros frappeurs, alors que Federer n'est pas forcément dans cette dynamique-là, donc on verra bien ce que ça donne, mais je mets une pièce sur Wawrinka.
La finale de Roland-Garros chez les femmes, ce sera samedi, chez les garçons, ce sera dimanche, donc voilà, on arrive dans la dernière semaine, et il n'y a plus de Français chez les femmes depuis la semaine dernière, et chez les hommes depuis aujourd'hui, on le rappelle, Benoît Paire a perdu contre le japonais Nishikori tout à l'heure en 5-7, et Gaël Monfils n'a rien pu faire face à Dominic Thiem, défaite en 3-7, donc le 4e mondial est finaliste l'année dernière. On a parlé de boxe, on a parlé de tennis, et on va parler de vélo avec vous, Timothée Rouvière. On va partir sur le Giro, c'est un coup de cœur.
Alors c'est même un coup de foudre.
Ah, c'est un coup de nouveau foudre. Encore
Oui, alors on innove un peu après le coup de tonnerre, le coup de foudre, pour Richard Carapaz, qui est l'équatorien.
C'est électrique ce soir.
De l'équipe, ouais, ouais. De l'équipe Movistar. C'est vrai que ce Giro, on savait pas trop ce que ça allait donner. Et Egan Bernal, donc qui est un petit peu la tête d'affiche de ce Giro et de la team Ineos, donc l'ancienne équipe Sky, a déclaré forfait quelques semaines avant. Et finalement, on a eu droit à un Giro avec du spectacle, avec des Français qui se sont montrés, avec des têtes d'affiche. Et on disait Roglic va gagner, Nibali va gagner, mais tout simplement on a un petit équatorien qui s'appelle Carapaz qui s'est montré, qui a tenu le maillot rose jusqu'à la fin. Et c'est beau parce qu'on voit, des jeunes qui arrivent à se montrer, qui sont pas forcément dans des grosses équipes. Et moi ce Giro m'a fait plaisir en tout cas, c'était retransmis sur l'équipe 21 tous les jours, donc c'était sympa pour les téléspectateurs. Et les Français se sont montrés aussi, on a 2 victoires d'étape. Donc c'était vraiment bien.
C'est parfait. Maxime Brossard, c'est quand même un bel entraînement pour nous, spectateurs, pour s'entraîner à bien s'asseoir sur le canapé, à prendre une bonne bière fraîche, avec modération bien évidemment, mais avant le Tour de France, c'est agréable.
Oui, mais surtout, on va dire, d'un point de vue sportif, la victoire de Movistar, c'est vraiment une victoire d'équipe, quoi, parce qu'il y avait, à part Landa, il n'y avait pas vraiment de superstar. Et finalement, ils ont réussi à se mettre tous derrière Carapaz, qui finalement était un peu, on va dire, un outsider. Et ils ont fait corps derrière cet équatorien, ils ont réussi à s'imposer, ils ont profité aussi je pense de l'erreur stratégique de Roglic qui s'est trop concentré sur Nibali en fait. Il a trop essayé de contrôler Nibali et finalement il a laissé passer les autres coureurs qui étaient aussi dangereux finalement. Et oui, je reviens aussi sur les victoires, notamment avec Nance Peeters qui a eu sa première victoire, qui est vraiment un très grand espoir du cyclisme français.
Coraline.
Est-ce que c'est de bon augure justement pour le Tour de France ou c'est encore trop tôt pour le dire? C'est à peu près dans un mois je pense le Tour de France.
Pour les Français, c'est bien parce que Arnaud Démare, ça faisait quand même très longtemps qu'il n'avait pas gagné. Donc oui. Là, la victoire, c'est bien. Pour les autres, je ne m'avancerai pas parce que c'est vrai que toute l'équipe Ineos, donc l'ancienne équipe Sky, elle n'était pas là. C'est des coureurs sur lesquels il faudra compter, ça c'est sûr. Mais en tant que favori de Tour de France, c'est un petit peu juste. Il faut voir ce qu'ils peuvent donner. Et surtout, sur le Tour de France, on sera face à des Armadas et Movistar. Ouais. Ils auront sûrement Quintana. Donc ça va être compliqué pour Carapaz de s'illustrer.
On termine en une minute. On va te donner 30 secondes chacun. Il y a un coup de cœur pour Maxime et un coup de gueule pour Timothée. On va commencer avec le coup de cœur pour Maxime. On va parler des jeunes du rugby. Le Stade Toulousain et Colomiers se sont illustrés ce week-end chez les jeunes.
Oui, simplement féliciter les jeunes des équipes de Toulouse et de Colomiers, donc le Stade Toulousain en Cadet Goderman qui s'est imposé contre Brive 38-16 et les juniors Krabos de Colomiers qui se sont imposés 31-13 contre Agen, les deux donc en finale du championnat de France. Voilà, ils ont été sacrés champions et c'est prometteur, voilà, pour la relève du rugby régional.
Et on espère, on va en parler tout à l'heure, hein, du Stade Toulousain, on espère que les seniors, entre guillemets, vont suivre les pitchouns. Et on termine avec du football, comme ça on aura fait foot, tennis, rugby, vélo et football. Un petit coup de gueule sur Tottenham, défait en finale de la Ligue des Champions par son voisin anglais Liverpool. 2-0, c'était à Madrid samedi soir.
C'est même un gros coup de gueule parce que cette Ligue des Champions nous a offert énormément de scénarios entre l'élimination précoce du PSG, celle du Real, l'Ajax, le Barça, etc. Et ça devait être un feu d'artifice et une apothéose. Et moi j'ai l'impression que Tottenham, qui joue la première finale de son histoire, n'a pas joué. A joué simplement les 15 dernières minutes. Donc il est vrai que c'est un petit peu compliqué parce que quand à la 21e seconde, vous concédez un penalty, c'est compliqué.
Qui est plus que litigieux.
Qui est
on
plus
est
que litigieux, mais voilà.
Et derrière, il reste 90 minutes.
C'est leur première finale, ils avaient des joueurs qui allaient. Est-ce que c'est Pochettino qui fait une erreur en plaçant Kane au coup d'envoi alors qu'il était blessé depuis 2 mois? Est-ce que
Trop
c'est un
de message
d'envie
au groupe, hein,
est Est-ce que c'est Dele Alli? Bon voilà, on sait pas, mais voilà, un petit peu dommage parce que j'ai l'impression qu'ils ont attendu vraiment que Liverpool joue en contre et. Et voilà, ils n'ont pas vraiment joué leur finale, ils ont juste joué sur les 15 dernières minutes.
Et sur le match, c'est Liverpool qui était favori, donc c'est peut-être Liverpool qui devait avoir les jambes qui tremblent. Encore une fois, et toujours la même phrase, mais c'est véridique, mais sans faire offense toujours à Tottenham, c'est vrai qu'on ne les attendait pas là. Quand tu arrives en finale d'une Ligue des Champions, Ah, si t'en prends 4, c'est pas prévu, donc si t'en prends 4, t'en prends 4, mais joue, parce que là, le sentiment qu'on a tous, nous observateurs, c'est qu'ils ont perdu la finale sans la jouer.
Voilà, c'est
donc,
ça.
Donc c'est ça qui est terrible pour
et
eux.
Et une finale de Ligue des Champions, ça se
on joue, joue pas
ça
25
se joue à 200%, ouais. Et c'est peut-être des joueurs qui rejoueront jamais une finale de Ligue des Champions, donc un petit peu dommage pour le spectacle, mais bravo à Liverpool quand même qui fait une saison formidable.
Et Liverpool, voilà, qui a enfin un titre, ils avaient perdu en finale de la Ligue Europa il y a 2 ans, en finale de la Ligue des Champions l'année dernière, donc ils retrouvent une finale européenne, et cette fois-ci, ils la gagnent, la 6e de leur histoire. Nous, on se retrouve dans moins de 4 minutes avec les conseils santé de Didier Rubio. À tout de suite.
Si le monsieur dort dehors, c'est qu'il aime le bruit des voitures. S'il s'amuse à faire le mort, c'est qu'il joue avec les statues. Et si un jour il a disparu, c'est qu'il est devenu millionnaire. C'est qu'il est sûrement sur une île avec un palmier dans sa bière. Tout va bien, tout va bien. Petit, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Petit, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Si la voisine crie très fort, c'est qu'elle a pas bien entendu. Si elle a du bleu sur le corps, c'est qu'elle a joué dans la peinture. Et si un jour elle a disparu, c'est qu'elle est partie en lune de miel. En attendant les jours de pluie, elle met ses lunettes de soleil. Tout va bien, tout va bien. Petit, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Petit, tout va bien, tout va bien.
Portez-vous bien, l'instant santé.
Le retour de la chronique santé sur Radio Présence. Quel plaisir de vous retrouver, Didier Rubio. Ça faisait un mois d'absence.
Exactement, et c'est tout le plaisir est pour
ça,
moi.
Ça faisait longtemps. On s'est arrêté il y a un mois justement sur les plantes adaptogènes. On va rester un petit peu dans cette collection de chroniques, entre guillemets. On va parler de la rhodiole. Qu'est-ce que c'est ?
Ouais. Alors, juste pour introduire ce sujet-là, donc c'est vrai qu'on avait parlé d'une plante adaptogène qui s'appelait le ginseng, donc un petit peu dans la lignée. Juste pour un bref rappel, l'adaptogène, c'est une substance pharmacologique qui induit dans un organisme un état de résistance augmentée qui est non spécifique. C'est-à-dire qu'en fait, ça va agir sur plusieurs terrains. Et l'idée, c'est de contrebalancer, par exemple, les signaux de stress, et de s'adapter peut-être des fois à un état ou un effort un peu exceptionnel. Globalement, ça augmente la résistance globale. Voilà.
Donc c'est important.
Disons évidemment. Que nous, on est d'accord toujours sur le fait que l'alimentation de base équilibrée, avec des bons aliments, le moins transformé possible, avec beaucoup de qualité, c'est déjà la base. Mais il est possible qu'on ait des périodes un petit peu de mou.
Il y a
la fatigue. La transition, comme vous disiez quand on s'est vu tout à l'heure, entre le printemps et l'été parfois, ce sont des périodes un petit peu qui fatiguent, la luminosité est un peu particulière. Et de fait, parfois on peut s'aider justement de plantes qui vont un petit peu réguler l'organisme.
Comme la rhodiole.
Et exactement, donc cette rhodiole, c'est une plante qui a des propriétés, on va dire, anxiolytiques et antidépressives. Voilà. C'est des plantes qui sont très très robustes en fait. C'est rigolo parce que la rhodiole, par exemple, c'est une plante qui était utilisée par les Vikings.
Bon, oui.
C'est costaud, quoi, les gars. c'est des solides, quoi. Et c'est des plantes qui résistent à 4000 mètres d'altitude, donc ça manque d'oxygène dans ces terrains-là. Donc c'est des plantes qui sont très, très solides, costauds. Elles agissent notamment sur le cortisol. Alors il me semble que le cortisol, on a eu parlé de ça dans une chronique, qui est une hormone particulière, qui est normale, qui est en quantité normale dans un organisme. Lorsqu'elle est en excès, elle crée des désordres. Donc la rhodiole aura tendance à agir sur ce terrain-là. Et également, la sérotonine, donc ça, il y a des gens qui connaissent la sérotonine, c'est une hormone vulgairement dite comme celle du bonheur. Eh bien, la rhodiole aura tendance à bloquer la destruction Donc en fait, c'est normal qu'il y ait un mécanisme qui détruise la sérotonine. Ben, la rhodiole aura tendance à bloquer cette destruction et de fait, ça permet d'en avoir un petit peu plus ou en avoir lorsqu'on en a besoin, alors qu'elle aurait pu être détruite. Donc ça, c'est vraiment intéressant, et notamment aussi la dopamine. Donc dopamine et sérotonine, ce sont des neurotransmetteurs qui permettent d'avoir bon, on va dire de la pêche et d'éviter d'être trop dépressif dans les moments comme ça.
Il y a également le guarana, c'est bien ça?
Exactement.
C'est bien prononcé.
Ah ouais, parfait Jean, maîtrise hein, maintenant. Ouais. Le guarana, c'est en résumé, vraiment, c'est très très riche en caféine. En fait, c'est connu pour ça. Vraiment, c'est de la caféine concentrée, c'est deux à trois fois plus concentré que le café. Donc c'est pour ça que je conseille, ça peut être utilisé, il faut plutôt l'utiliser le matin plutôt que le soir. La rhodiole, c'est une plante donc qui est plutôt sur le plan antidépressif et dopaminergique.
Et le guarana, c'est tonique.
C'est un tonifiant. Voilà, c'est sur les plateaux. Il y en a d'autres, hein, si on a le temps.
En vitesse, il y a l'astragale et le maca.
Ouais, l'astragale. Alors, c'est toujours pareil. C'est des plantes qu'on trouve sur des plateaux. L'astragale, c'est en Mongolie. C'est un immunostimulant très, très puissant. Bon, après, c'est très cher, hein, l'astragale.
Oui.
Ça dépend comment c'est extrait. Mais voilà, c'est des choses qui sont très chères. Et le maca, là, pareil, c'est du ginseng péruvien. Alors, en fait, à chaque raison, le ginseng, c'est coréen. Le maca, c'est péruvien. Et on voit bien que ce sont des plantes qui sont sur des terreaux, enfin, des plateaux qui sont très hauts. Et donc, c'est des plantes très résistantes et donc qui apportent. Qui peut aider des organismes à passer des petits des moyens. Alors ça se prend par cure, hein. On ne va pas prendre ça toute l'année, mais c'est des petites cures à faire peut-être d'une semaine ou 15 jours. Et voilà, et ça peut aider à remonter un petit peu la pente.
Et comme ça, on est prêt pour l'été. Didier Rubio, exactement. Merci.
Exactement, merci Jean.
On le rappelle, vous êtes diététicien et nutritionniste du sport, spécialisé en éducation thérapeutique. Vous travaillez également à mi-temps, hôpital des enfants et aussi en activité libérale dans le sport et la santé. Vous avez été formé en qualité de vie au travail et dans le sport. En plus, vous êtes conférencier et micronutritionniste. Vos coordonnées sont à retrouver sur Radio Présence.
Sportez-vous bien ? L'agenda sportif.
L'agenda de la semaine avec vous, Maxime Brossard. Et on l'a dit tout à l'heure, pendant le sommaire, c'est un agenda sportif un peu particulier. Je vous laisse la parole.
Oui, on a au téléphone Arnaud Mangeni des Ours de Toulouse.
Qu'on avait déjà reçu. Arnaud, oui. Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir Arnaud. Bon, bah, du coup, déjà, félicitations pour votre qualification en finale de conférence.
Merci. C'est un bon résultat pour le club. On a eu un autre résultat ce week-end. Nos jeunes se sont inclinés en demi-finale nationale. Bon, c'est un peu moins joyeux, mais bon, les seniors continuent l'aventure. C'est quelque chose de bien.
Bon, j'ai vu que vous aviez battu Nice donc en demi-finale de conférence. Ben, pour rappeler aux auditeurs, quel type de match ça a été? Il a fallu sortir un gros match, j'imagine, pour s'imposer face à cette équipe qui était la meilleure attaque du championnat, il me semble.
Alors oui, c'est la meilleure attaque du championnat. Les seniors avaient été sèchement battus à l'aller à Toulouse il y a quelques mois. Un score de 44-21, donc sans appel. Donc les seniors ont bien travaillé. On a beaucoup scouté, donc beaucoup regardé la vidéo de leur match pour étudier leurs points faibles et leurs points forts aussi. Et afin de nous préparer au mieux contre eux, quoi.
D'accord. Et on va dire au niveau de ce match, on avait mis en lumière un peu justement la défense, qui était aussi peut-être un de vos points forts. J'imagine que l'équipe défensive a fait un gros travail aussi, non?
Ah oui, l'équipe défensive a fait un gros travail, notamment sur la pression qu'on a réussi à mettre sur leur quarterback nord-américain, qui à l'aller, c'était bien promené. Là, ici, il était cadenassé, verrouillé. Ils ont réussi à marquer, mais à produire du jeu que sur des phases exceptionnelles ou ce qu'on appelle des big plays en termes anglophones. C'est-à-dire qu'ils ont, grosso modo, ils ont réussi à avancer sur des actions assez exceptionnelles. Sinon, la plupart du temps, ils rendaient la balle assez vite. Ouais.
D'accord.
Donc la défense a réussi à vraiment cadenasser l'enjeu d'attaque et être assez dominant. Mais bon, on s'est quand même pris quelques points sur des quelques erreurs. Ouais. Ils ont de bons athlètes. Donc ouais. Voilà.
Vous avez vraiment franchi un cap, on peut dire, du coup, avec cette accession finale. C'était la demi, vous y aviez buté sur ce match-là plusieurs fois, non?
Oui, alors depuis que les Ours sont en D2, ça fera 7 ans, il y a eu 5 fois les playoffs.
D'accord.
Et à chaque fois, c'était défaite au premier tour de playoffs, donc c'est historique pour le club. En deuxième division, le club, pour la première fois, accède donc à la finale de conférence ou les demi-finales nationales.
D'accord. Et du coup, en route pour l'histoire, donc, avec ce match de dimanche contre les Grizzlies catalans, si je ne dis pas de bêtises,
voilà,
ce sera dimanche à 13h à Salanque, donc.
Voilà, tout à fait, 13h à Salanque, à côté de Perpignan.
Quel type de match vous attendez rapidement?
Alors, ça va être un match compliqué, parce qu'effectivement, ils sont dans notre poule, ils nous ont battus deux fois en saison.
D'accord.
Ça va être un match certainement plus compliqué que Nice, puisqu'ils sont un peu plus dominants sur leur ligne, sur leurs zones de ligne sont beaucoup plus dominants.
D'accord.
Ils ont des joueurs d'expérience au second rideau en défense, donc ouais. Ça joue pas mal. On les a joués deux fois, donc aussi eux nous connaissent. Et ils ont deux imports nord-américains qui sont de très bons athlètes aussi, donc il va falloir se méfier, puisque c'est eux qui tiennent l'équipe. Donc ça va être un match assez plus compliqué, je pense, que Nice, où finalement les Ours ont dominé le match du début à la fin. Là, je pense que ce sera beaucoup plus compliqué, oui.
Ok, mais bon courage Arnaud, et merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu
merci
à nos questions.
Vous.
Merci d'avoir été avec nous dans Sportez-vous bien sur Radio Présence. On continue, nous, l'agenda sportif de la semaine. On va parler de top 14, bien évidemment, les demi-finales, oui. On a enfin les deux affiches.
Oui, alors les demi-finales rapidement. Donc le Stade Toulousain qui va affronter le Stade Rochelet. Ce sera samedi à 21h. Donc voilà, une belle affiche entre deux équipes qui jouent. J'espère qu'il y aura un peu plus de matchs que lors des barrages.
C'est vrai qu'on s'est un peu ennuyé sur les barrages. C'est pareil, c'est l'enjeu qui a fait ou c'est les équipes?
L'enjeu a tué le jeu, je pense. C'était un duel tactique de chaque côté. Des équipes, l'écart entre ces quatre équipes était quand même assez infime. Il y avait des beaux noms de chaque côté, donc ça s'est joué. Mais souvent, même les pros le disent malheureusement, mais c'est vrai que c'est un peu un élément de langage sur des détails. Et bon, félicitations quand même à La Rochelle qui a sorti un gros match pour s'imposer au Racing.
Oui, il fallait le faire. Et la seconde,
ce sera donc Clermont qui joue contre le Loup à 16h30 dimanche. Voilà, les deux sont à Bordeaux. Au grand stade de Bordeaux, Matmut Atlantique.
Avant la finale, on espère pour le Stade Toulousain, ce sera le samedi 15 juin, bien évidemment, à Saint-Denis, au Stade de France. Un petit mot de handball, rugby à 13.
À 15, tout simplement. Je voulais un peu innover aussi encore ce soir avec un mot culturel, puisqu'en fait, il y a une avant-première d'un film consacré au rugby ce soir. C'est un film documentaire qui s'appelle Le Beau Joueur, qui a été réalisé par Delphine Glaze. C'est un film en fait qui évoque. Pendant la réalisatrice, pendant un an, a suivi l'aviron bayonnais lors de la saison 2016-2017, saison où Bayonne est descendue, et donc elle a fait un magnifique documentaire. J'ai vu un peu donc la bande-annonce et tout, ça a l'air magnifique. Et donc l'avant-première est ce soir au ciné ABC à Toulouse, voilà, à 20h30. C'est 13 rue Saint-Bernard, voilà, si vous voulez voir un beau documentaire sur le rugby, c'est l'occasion.
Et Bayonne qui retrouve le top 14 comme Brive.
Comme Brive, ouais, qui a battu Grenoble.
Voilà. Un mot de handball?
Ouais, le hand, donc jeudi, il y aura le dernier match de la saison pour le Phoenix, 8e, qui reçoit Aix, 6e. Il n'y a pas d'enjeu, ce sera à 20h45, ce sera la dernière journée. Justement, ouais, le fait qu'il n'y a pas d'enjeu, peut-être que ça offrira du spectacle, les joueurs vont se lâcher.
Justement, là, il n'y en a pas, donc les joueurs vont pouvoir se lâcher.
Pourquoi
et on termine. Un petit mot de football.
Ouais, le foot. Plusieurs annonces pour le foot. Déjà, la victoire de l'équipe de France, donc hier contre la Bolivie, 2-0 avec des buts de Lemar et Griezmann. Et prochain match pour l'équipe de France, donc samedi en Turquie à Konya.
Là, c'est pour l'Euro 2020, c'est un match amical.
Ouais, là, c'est un match de qualification, donc samedi à 20h45. L'actualité donc, du foot qui est chargée aussi, parce que ce soir, il y a un match de préparation de l'Euro Espoir. Les Bleus jouent contre la Belgique.
La Belgique Espoir aussi. La
Belgique Espoir aussi, bien sûr, oui. Ça va se jouer au Mans, ce sera ce soir à 20h50 sur Canal Plus Sport. Après ce match-là, il y aura un match contre l'Autriche et ensuite l'Euro va débuter le 16 juin. C'est un Euro qui se disputait entre Saint-Marin et l'Italie. Voilà. Et la huitième de finale de la Coupe du Monde.
Toujours l'équipe de France, mais les moins de 20 ans.
Des moins de 20 ans en Pologne. France-États-Unis à 17h30 sur Canal Plus Sport. Ce sera
mardi.
Voilà, au stade, avec un nom qui va faire un carton au Scrabble. Je vais essayer de vous le dire. Zdzislav Krzyszkowiak. Voilà.
C'est en Pologne.
Voilà.
Et un mot aussi de Ligue 1 pour terminer. Dijon a battu Lens hier 3-1, reste en Ligue 1. Et de son côté, le Gazélec Ajaccio est relégué en National. Ils ont été défaits à la dernière seconde, à la 97e minute. Parlement Le Mans qui, 6 ans après son dépôt de bilan, retrouve le monde professionnel. Le monde professionnel qui devrait quitter malheureusement Sochaux bientôt. Merci Maxime. Nous, on se retrouve tout de suite avec le débat de la soirée.
Sportez-vous bien. Le débat.
On reste dans le football, mais on va prendre le football féminin, bien sûr. Vendredi à 21h au Parc des Princes débute la 8e Coupe du Monde de la FIFA féminine. Une première en France, un mois de compétition pour succéder aux États-Unis. La France peut réussir une première dans l'histoire du football, c'est-à-dire réussir un doublé homme-femme en l'espace d'un an. Messieurs, dames, vous avez l'habitude, on ne répond que par oui ou par non. La France a-t-elle les moyens d'être tout simplement, hein, championne du monde? Coraline.
Oui.
Maxime.
Ah, bien sûr.
Et Timothée Rouvière.
Bien sûr aussi.
On est d'accord, il y a les moyens, c'est largement faisable. Coraline, on est à domicile.
Voilà, je pense qu'il y a les moyens, justement parce qu'on est à domicile. Après, est-ce qu'on va réellement la gagner? Ça, je ne peux pas le dire, mais en tout cas, je pense que oui, on a les moyens de la gagner, parce que la ferveur de la France, bien que ça soit l'équipe féminine, mais il y a quand même la ferveur du public et tout ça qui va entraîner les joueuses et qui va faire que... on se surpasse d'autant plus.
Maxime Brossard.
Ouais, et puis quand on regarde l'ossature de cette équipe, elle est belle, quoi. On voit, il y a beaucoup de Lyonnaises déjà, donc Lyon, c'est quand même l'équipe qui domine le football féminin.
Quadruple championne d'Europe en titre. Donc,
qui ont encore gagné récemment contre Barcelone, qu'elles ont balayé en finale. Oui, il y a une ossature qui est quand même costaud. Il y a quelques joueuses aussi du Paris Saint-Germain, qui est l'équipe, on va dire, qui commence à concurrencer un peu l'hégémonie lyonnaise. Donc, non, une équipe très équilibrée, avec une vraie capitaine, vraie meneuse, Wendy Renard, qui, à mon avis, a vraiment le potentiel pour vraiment, ben, justement, amener ses troupes le plus loin possible. Voilà, non, et puis je pense qu'en plus de ça, c'est une équipe qui va proposer du beau football.
On le rappelle, l'équipe de France en pays hôte est bien évidemment dans le groupe A. Elle affrontera la Corée du Sud. Ce sera vendredi pour le match d'ouverture de la Coupe du Monde. Elle est dans le groupe de la Norvège et du Nigeria.
Oui, le groupe est plutôt corsé. Hein. Enfin, après que la Norvège, on va dire que bon, elles n'ont pas leur ballon d'or.
Ada
Gerberg, qui je crois est en conflit avec sa fédération,
voilà,
qui va pas participer. Mais après, Corée du Sud, Norvège, Nigeria, ça devrait le faire. Mais, bon.
Timothée, on voit l'équipe de France la semaine dernière, il y a eu un dîner entre les espoirs, l'équipe de France féminine, pardon, et l'équipe de France masculine. Il y a beaucoup de dialogue entre Didier Deschamps, qui a gagné deux fois la Coupe du Monde, et Corinne Diacre. C'est un plus énorme pour l'équipe de France féminine de côtoyer des champions du monde en plus. C'était pas il y a 30 ans, c'était il y a un an, c'est dans le football récent.
Oui, c'est une motivation. Je trouve ça très bien que la FFF ait organisé ce dîner. Ça permet de mutualiser les forces, que les joueurs puissent parler entre eux et les joueuses aussi. C'est très important. Le fait d'avoir vu les garçons gagner la Coupe du Monde, ça donne une force supplémentaire. Et pour rebondir sur ce que dit Maxime, c'est vrai que les 23 joueuses qui ont été sélectionnées, Corinne Diacre fonctionne un peu comme Didier Deschamps. Elle prend les 23 joueuses qui savent jouer ensemble et pas forcément les 23 meilleures joueuses. On peut penser notamment au cas de Marie-Antoinette Catodo, qui n'a pas été sélectionnée.
Meilleure buteuse du championnat.
Voilà, meilleure buteuse du championnat, mais qui n'a pas été sélectionnée, qui évolue au Paris Saint-Germain.
Trop jeune, peut-être.
Moi, j'ai pris une petite idée sur
Mbappé a 19 ans et ça.
J'ai une petite idée sur pourquoi elle n'a pas été sélectionnée, mais voilà, après, voilà, Corinne Diacre.
Je pense que c'est une question de caractère. Hein.
Les 23 meilleures joueuses, je pense qu'il y avait aussi beaucoup de concurrence devant. Oui. Et je pense que Marie-Antoinette Kakoto doit évoluer et elle aura des chances de se montrer. Mais surtout, quand on regarde les joueuses, voilà, à chaque poste, on a peut-être les meilleures joueuses du monde. Au poste de gardien, il y a Sarah Bouadi, Wendy Renard et Gridgen Bock, c'est peut-être les deux meilleures défenseuses du monde. Au milieu, il y a Amandine Henry et surtout devant, Le Sommer et Delphine Cascarino qui montent très très bien. Donc
je vais me faire l'avocat du diable comme d'habitude dans cette émission. Voilà, on est d'accord, la France est toujours dans les coupes du monde, dans les championnats d'Europe, les Jeux Olympiques, bon là liée parce qu'elle est pays hôte, mais par contre elle n'a jamais rien gagné, vous me voyez venir. Est-ce que c'est pas un mal malheureusement pour l'équipe de France féminine de football, mais malheureusement pour la France, c'est un mal qui perdure, c'est-à-dire que toujours là. Ouais, ok, on est vraiment la France du football masculin des années 50, 60, 70, dans le sens où on est une belle équipe, on joue bien, on est gentil, on est là, par contre ça gagne pas, quoi.
C'est vrai que les Françaises au niveau mental ont du mal à confirmer, on l'a vu à chaque Jeux Olympiques, à chaque Championnat d'Europe ou à chaque Coupe du Monde, ça bloque soit en demi, soit en quart, et c'est toujours les mêmes équipes qui éliminent l'équipe de France. Je pense au Canada, je pense à la Norvège, je pense à la Suède,
à l'Allemagne, surtout.
Je pense aux États-Unis. Faut pas oublier que au début des années 2000, l'équipe de France avait entre 15 et 20 ans de retard sur toutes les nations en termes de foot féminin.
On est d'accord.
Elles ont comblé un fossé assez énorme. Et je pense qu'avec Corinne Diacre, qui a entraîné des garçons avant, à Clermont, ils ont engagé des préparateurs mentaux. Je pense que l'équipe de France, maintenant, arrive à maturité, surtout les grandes joueuses comme Wendy Renard. Et je pense qu'il y a possibilité de passer un cap cette fois-ci.
C'est possible, Maxime Brossard.
Oui, en plus de passer un cap, c'est-à-dire que c'est vraiment, on sent une montée en puissance de la discipline chez les filles, un peu comme pour le rugby, ou pour voilà, ça se met un peu à niveau. On avait un peu de retard sur les autres nations, et là, ça commence à arriver. C'est vrai que les États-Unis ont archi dominé
C'est l'équipe à battre parce que la Coupe du Monde, il y a eu 7 éditions. Oui. C'est simple, les États-Unis ont fait 7 podiums. C'est-à-dire champion du monde en 91, en 99 et en 2015, finaliste en 2011 et troisième en 95, 2003, 2017. Les États-Unis ont fait que des podiums.
Ça vient du fait que le football
c'est le sport
féminin
national là-bas,
c'est le soccer déjà, donc c'est pour les est réservé aux filles en fait. Et donc c'est un sport qui est vraiment qui est encouragé par le système universitaire comme ils peuvent le faire pour le basket ou d'autres disciplines.
C'est presque une obligation.
Et
c'est
des programmes et les filles sont il y a une vraie culture du soccer pour les filles aux États-Unis en fait.
Coraline, tout à l'heure vous avez parlé du fait que l'équipe de France reçoit la Coupe du Monde, organise la Coupe du Monde justement. Est-ce que ça peut ne pas être alors en 98 pour les hommes ça avait fonctionné, en 2016 pour l'Euro 2016 de foot, pareil, malgré la défaite en finale, c'est vraiment un coup de pouce ou ça peut mettre une pression comme par exemple le Brésil chez les garçons en 2014.
Après, ça peut effectivement mettre la pression. Après, c'est des joueuses de haut niveau. La pression, elles savent en jouer aussi. Donc,
elles font les matchs de haut niveau en club, donc elles connaissent.
Voilà, exactement. La pression, elles la connaissent, elles savent la gérer. Donc, ça met la pression, mais il faut savoir la positiver. Et je pense qu'à ce niveau, la positiver, c'est quelque chose qu'elles savent faire.
Oui, c'est important. De toute façon, l'équipe de France va devoir gérer cette pression. Comme vous dites, Coraline, elles ont l'habitude de gérer ces matchs. Là, il va falloir avoir le déclic. Mais je ne miserai pas que sur les États-Unis. Moi, je vois pas mal de nations qui peuvent bien figurer.
Allemagne,
je pense aux Pays-Bas,
le Japon,
d'Europe. Le Japon, qui sont champions du monde. Ouais. L'Allemagne qui figure très bien, qui a été, je crois, 8 fois champion d'Europe. Il y a l'Espagne, il y a le Brésil qu'il ne faut pas enterrer. Et la Norvège dans le groupe de l'équipe de France, même s'il n'y a pas Dagerberg et sa sœur avec des problèmes de fédération. Ouais. Les Norvégiennes et les Scandinaves sont toujours
prêtes. Les Norvégiennes, c'est ça, sont toujours prêtes quand on regarde un peu. Les parcours, il y a quand même une finale en 91. Après, elles ont souvent fait des troisièmes places.
Elles sont championnes du monde en 95, la Norvège. Hein.
Oui. Donc, les pays scandinaves ont un peu comme les États-Unis cette culture du foot féminin. Donc, il va falloir être méfiant. Et après, il y aura quand même l'avantage, comme l'a dit Coraline, très justement, du public et surtout de la connaissance des lieux qui va être très important.
Et, voilà. Et autre pression, il y a le fait de l'organiser. Par contre, il y a autre chose où on les bassine, parce qu'on est, nous sommes fiers de ça. C'est les garçons qui ont gagné la Coupe du Monde l'année dernière.
Oui, c'est sûr ça met une pression, le fait que les garçons aient gagné la Coupe du Monde. Mais je pense que les filles, le fait d'être devant le public, ça va être une motivation supplémentaire. Je mettrai un petit bémol, il faut faire attention parce qu'il y a quand même 3 joueuses majeures qui sont blessées chez l'équipe de France. Amandine Henry au milieu de terrain, Grigembo qui a fait une entorse du genou en défense et Eugénie Le Sommer. Donc on espère qu'elles vont être établies pour le début et le premier match contre la Corée du Sud vendredi. Mais c'est vrai que c'est la colonne vertébrale de cette équipe de France et je pense que ça va assurer derrière.
Ouais,
on l'a bien vu sur les matchs
sur
les matchs de préparation, il y a des joueuses qui peuvent assurer derrière, mais il faut faire attention sur. Sur les premiers matchs.
Coraline, pour conclure.
Voilà, après, juste pour conclure, les deux matchs de poule, sont complets contre la Corée et le Nigeria.
Les stades seront pleins.
Voilà, il reste encore quelques places contre la Norvège. Les places sont. Donc, c'est à Nice le match. Ça sera le 12 juin. Les places, premier prix, c'est à 20 euros. Donc, si vous êtes capable de claquer
profiter,
70 balles
cher,
pour aller voir TFC et PSG,
prenez
la voiture et allez voir un match de l'équipe de France.
Exactement. Réponse pour ce début de la Coupe du Monde le 7 juin. Ce sera au Parc des Princes. La finale aura lieu à Lyon, au Parc OL. Ce sera le 7 juillet, un mois plus tard. Donc, voilà, allez les Bleus, bien évidemment. Nous, on se retrouve dans moins de 4 minutes avec notre invité Olivier Echauffny. À tout de suite.
T'as jamais vu une femme qui se bat. Suis-moi dans la ville blafarde et je te montrerai comme je mords, comme j'aboie.
je pourrais te blesser, oui, dans la nuit qui frissonne. Prends garde sous mon sein là.
Portez-vous bien, l'invité.
Notre invité a joué plus de 500 matchs professionnels avant de devenir entraîneur, passé par Amiens, Sochaux, bien évidemment, et ensuite l'équipe de France féminine. Il est maintenant l'actuel entraîneur du Paris Saint-Germain de la section féminine. Olivier, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous en direct sur Radio Présence. Je viens de le dire, donc vous êtes l'entraîneur du Paris Saint-Germain féminine. Vous avez été donc joueur, bien évidemment, chez les hommes. Vous avez entraîné des hommes, des femmes. Sportivement parlant, quelle est la différence pour un entraîneur entre entraîner des hommes et des femmes ? Déjà, est-ce qu'il y en a une de différence ?
Vous savez, en général, c'est la première question qu'on a tendance à me poser.
J'imagine. Oui.
C'est vrai, j'ai entraîné les deux, donc... Des différences, en fait, il n'y en a pas vraiment. Le football, vous savez, est universel. Donc, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, les filles ont envie d'être entraînées comme les garçons.
La même exigence, le même rythme, ouais, voilà.
Exactement, exactement. La même intensité aussi. Il faut quand même savoir aujourd'hui qu'on a véritablement affaire à des athlètes de haut niveau, oui, qui se préparent encore aussi bien que les garçons, voire même mieux, parce qu'il y a encore plus de rigueur et de discipline. Voilà. S'il doit y avoir une différence entre les deux, c'est surtout ce plan athlétique. Dans les duels, là, la différence, elle est certaine. Oui.
Oh, c'est du sport, c'est du football de haut niveau, même titre que les garçons, bien évidemment. Avant de prendre l'équipe de France féminine, juste après avoir entraîné Sochaux, vous aviez des a priori, vous aviez des doutes sur le fait de prendre une équipe sportivement parlant ?
Non, pas spécialement, au contraire, je trouvais que c'était une très très belle opportunité. Alors en plus de pouvoir entraîner les filles en sélection avec l'équipe nationale, c'est sûr que c'était un privilège et une grande fierté. Donc j'ai pas pris trop le temps de réfléchir, j'y suis allé parce que c'était avant tout défendre les couleurs de son pays, tout ce que ça pouvait représenter autour. Donc c'était vraiment quelque chose de très fort et de sympa, quoi.
L'équipe de France féminine, on en parlera tout à l'heure. Un mot de Maxime Brossard, de nos chroniqueurs.
Bonsoir Olivier.
Bonsoir.
Alors ouais, j'avais une question, comme vous avez dit dans votre première réponse, c'est les filles voulaient être entraînées de la même façon et atteindre les mêmes performances, on va dire, que les garçons, touchés au haut niveau. Et justement, par rapport au football professionnel, par rapport à l'AD1, est-ce que vous qui avez vraiment, vous qui êtes dedans, est-ce que toutes les filles sont professionnelles en D1?
Et non, malheureusement, elles ne sont pas toutes professionnelles. Et je vais aller plus loin encore, c'est qu'il n'y a aucune fille qui est professionnelle.
D'accord. Okay.
Aucune, que ce soit...
Même les joueuses en équipe de France, on pense à l'Olympique Lyonnais, vous êtes au Paris Saint-Germain. Lyon et Paris, ce sont les deux clubs vitrines du football français. Même dans ces clubs-là, ce n'est pas professionnel ?
Non, exactement. C'est-à-dire que il faut rajouter aussi Montpellier, Paris FC, anciennement Juvisy, et puis Bordeaux. Voilà, on va dire les cinq clubs qui sont aujourd'hui régulièrement dans cette première partie de classement. Après, aujourd'hui, l'ensemble des joueuses ont des contrats, mais ce sont des contrats fédéraux, puisque ce sont des contrats qui sont liés à la Fédération française de football et qui ne sont pas liés à la Ligue, comme c'est le cas chez les garçons sur la Ligue 1, la Ligue 2, voire dans quelques temps aussi sur le National. Donc c'est la Ligue qui gère, ces clubs-là, donc la Ligue professionnelle, tandis que chez les filles, c'est la Fédération française. D'accord. Donc ça reste encore assez amateur, mais les contrats fédéraux, ce sont comme des contrats professionnels. Oui. C'est la même chose, il n'y a que le statut en fait, qui change un petit peu.
D'accord.
On a parlé de la différence homme-femme sportivement parlant. Il y a aussi, vous êtes un entraîneur homme, bien évidemment. Quel est le relationnel que vous avez avec les filles, les joueuses? Je prends l'exemple de Jérémy Jeannot, qui est l'ancien gardien de la AS Saint-Etienne, que vous avez croisé sûrement sur les pelouses de Ligue 1. Il a dit il n'y a pas longtemps qu'il avait refusé le poste d'entraîneur des gardiens de l'équipe de France féminine, justement de Corinne Diacre, là, pour la Coupe du Monde, parce qu'il était assez proche de ses joueurs quand il était à l'AS Saint-Etienne. Il est au centre de formation à Saint-Etienne. Ça pouvait arriver de le mettre une main aux fesses pour motiver ses joueurs. Et il avait refusé par rapport à ça. Comment vous jugez ça et quel est le relationnel que vous avez avec les joueuses? C'est compliqué ou pas?
Non, mais il faut savoir faire la part des choses.
Oui.
Je pense que, sincèrement, pour avoir connu les deux, on s'attache énormément aux filles, quoi. Énormément dans le sens où, déjà, elles ont toujours un besoin d'apprendre. D'être à l'écoute, tout ce qu'on peut leur dire, en plus en venant du monde professionnel, moi qui ai fait quand même une certaine carrière,
automatiquement, elles ont besoin.
Comment ?
Plus de 500 matchs, oui.
Oui, bon, c'est déjà un petit peu loin, puisque ça fait déjà quand même 10 ans, mine de rien, ça passe, le temps passe. Mais pouvoir transmettre tout ce qu'on a pu apprendre, nous, au niveau professionnel, c'est déjà très très bien. Après, je pense que Jérémy, il faut qu'il puisse aller plus loin dans cette volonté peut-être autre que les garçons, parce qu'aujourd'hui les filles elles demandent que ça, elles demandent à ce qu'on leur apporte vraiment toute notre connaissance. Et il y a de plus en plus aujourd'hui d'anciens footeux garçons qui viennent de plus en plus chez les filles, parce que automatiquement il y a une vraie volonté aussi, une vraie rigueur qui a peut-être un petit peu moins chez les garçons.
Vous avez dit que tout à l'heure que les filles n'étaient malheureusement pas sous le statut professionnel, même si elles sont payées pour jouer au football de haut niveau. Justement, on parle de la Coupe du Monde là qui va débuter vendredi. Est-ce que le fait d'organiser la Coupe du Monde en France peut permettre justement avoir encore plus de visibilité pour le football féminin? On l'imagine.
Mais il y en a déjà.
Oui.
Il y en a déjà énormément. On parle que de ça. En plus, il ne va pas y avoir véritablement de concurrence face à la Coupe du Monde. Alors, je parle surtout de grandes compétitions qui pourraient être à côté, ou une Coupe du Monde de rugby, ou le vélo avec le Tour de France, bien sûr, qui débutera au mois de juillet. Mais il y a un engouement. Je pense que les gens ont envie peut-être d'apprendre un petit peu ce que c'est le football féminin, parce qu'il y en a beaucoup qui le connaissent pas, qui ne mesurent pas encore la qualité de ces joueuses, mais ils vont être très très surpris, parce qu'aujourd'hui il y a eu une véritable évolution. On a quand même l'équipe la plus forte du monde avec l'Olympique Lyonnais, qui est représentée pratiquement à 40 ou 50% au niveau de l'équipe de France. Donc bon, ça démontre que ça travaille bien aussi dans le championnat de France, et que les filles aujourd'hui, elles sont exposées.
Maxime Brossard.
Oui, moi j'avais une question du coup, par exemple, sur l'évolution, et je voulais savoir un peu justement où en étaient aussi les équipes de jeunes féminines. En fait, on n'entend peut-être pas trop parler, et je voulais savoir quel était l'engouement au niveau des équipes de jeunes. Est-ce que déjà, toute petite, il y avait des filles qui n'hésitaient pas à se lancer dans le foot, et comment ça a évolué aussi au niveau des équipes, on va dire U19, U16, tout ça, quoi?
Écoutez, il faut pas aller trop vite, quoi. Il faut pas aller trop vite, parce qu'il y a la locomotive devant, il y a Lyon, il y a le Paris Saint-Germain, Montpellier. Et puis il y a aussi toutes les petites structures, parce qu'aujourd'hui, dans le football féminin, ce qui est compliqué, c'est les structures. Et notamment après cette Coupe du Monde, en espérant que l'équipe de France aille le plus loin possible, ça voudra dire qu'à la rentrée prochaine, il y aura des vocations, à ce qu'il y ait de plus en plus d'adhérents dès le mois de septembre. Donc pour ça, il faut des structures, des conditions qui soient plutôt bonnes, et c'est pas encore le cas. Donc ne pas aller trop vite. Des centres de formation, ça n'existe pas encore réellement. Ouais. Ça se met en place. Nous, on a la chance d'avoir monté au Paris Saint-Germain une section féminine, et notamment de U19. D'ailleurs, les filles ont été championnes de France, puisqu'elles ont battu l'Olympique Lyonnais il y a quelques semaines. Donc, doucement, ça se met en place. Mais il faut vraiment pas aller trop, trop vite, parce que derrière, sinon, ça ne va pas suivre.
D'accord.
Il y a des audiences qui risquent d'être incroyables pour la Coupe du Monde. Le résultat des Bleus, vous en avez un petit peu parlé, mais le résultat des Bleus aura évidemment un impact sur la suite, sur le développement, sur la rapidité du développement du football féminin.
Oui, obligatoirement en France, oui. Même s'il a bien évolué, puisque en l'espace de 5 ans, on est passé de 90 000 adhérents à 180 000. Donc, il y a eu quand même un gros travail qui a été fait en amont. Mais c'est pas encore, on va dire, suffisant. Il va falloir encore continuer après cette Coupe du Monde et surfer, on l'espère, bien sûr, sur un succès de l'équipe de France.
Et ce serait, on l'avait dit tout à l'heure un petit peu dans le débat, mais ce serait la première fois qu'une équipe de football remporte les hommes et les femmes en l'espace d'un an. Un mot sur l'équipe de France, on le rappelle, vous avez été sélectionneur de l'équipe de France féminine, donc les joueuses, vous les connaissez presque par cœur, si ce n'est par cœur, les joueuses du Paris Saint-Germain qui sont en équipe de France, vous les côtoyez tous les jours. Quelle est la force numéro une de cette équipe de France ?
Voilà, la force, j'ai envie de dire, c'est un groupe assez homogène avec des joueuses d'expérience qui ont gagné beaucoup de titres en club. Je pense à toutes les Lyonnaises, Wendy Renard, Sarah Wadi, Genise Le Sommer, notamment Amel Majri. Donc ce sont des joueuses qui ont du caractère et cette expérience. Et puis à côté de ça, des jeunes de talent qui, il y a 2 ans, n'avaient pas encore... cette maturité-là et qu'ils l'ont beaucoup plus aujourd'hui. Je pense à Khadi Diani, je pense à Delphine Cascarino, Valérie Gauvin. Donc voilà, toutes ces joueuses-là. Donc j'ai envie de dire, il y a un petit peu cette expérience et puis cette insouciance avec cette jeunesse qui est arrivée. Bon, maintenant, il faut surtout ne pas avoir trop de pépins physiques, de blessés, parce que ça risque d'être compliqué sinon.
Une question de notre chroniqueur Timothée Rouvière.
Bonsoir Olivier.
Bonsoir.
On sait que vous avez 3 joueuses qui sont sélectionnées en équipe de France, mais pas Marie-Antoinette Katoto. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites.
On allait la poser, la question, bien évidemment.
On est obligé de la poser. Ça doit être une déception pour elle. Elle a que 20 ans. Et vous avez pu un petit peu discuter avec elle de cette non-sélection. Comment elle le vit personnellement ?
Écoutez, mettez-vous à sa place 30 secondes. Elle finit meilleure buteuse du championnat, 22 buts devant le Ballon d'Or qui était Ada Gerber. Elle a marqué 30 buts, toutes compétitions confondues, en Ligue des Champions, en Coupe de France et en championnat. Elle a que 20 ans et malgré tout, elle a montré beaucoup, beaucoup de qualité pendant toute la saison. Malheureusement, voilà, c'est un choix, il faut accepter ce choix-là, même s'il est difficile. Marie-Antoinette a beaucoup de caractère, c'est quelqu'un qui va encore énormément progresser, qui a toutes les qualités. Elle se faisait vraiment un plaisir d'être à cette Coupe du Monde. Bon, ben voilà, elle n'y sera pas, mais c'est pas pour autant qu'elle doit s'arrêter là, certainement pas. Alors oui, ça a été dur, c'était très dur, très compliqué psychologiquement, mais on a ce rôle-là aussi derrière de pouvoir l'encadrer, de pouvoir l'aider, et en même temps qu'elle montre quelque part que les personnes qui ont fait ce choix-là se sont peut-être trompées, quoi, tout simplement.
Une question qui, voilà, elle sera pas, comment dire, elle peut être mal prise, mais c'est vraiment pas le cas. L'équipe de France, on en avait parlé un petit peu dans le débat, on dit, voilà, ça joue bien, c'est beau à voir, etc. Mais malheureusement, ça ne gagne pas. Qu'est-ce qui fait que l'équipe de France ne gagne pas ces compétitions ? C'est du détail, il y a un manque d'expérience, un manque de... Qu'est-ce qui manque pour gagner une compétition, l'Euro, la Coupe du Monde, ou même éventuellement les Jeux Olympiques ?
C'est du détail. Je l'aurais mis en place au championnat d'Europe.
Oui, c'est vrai.
Bon, déjà, j'ai envie de dire, il y a des phases de transition, c'est-à-dire par rapport aux générations. Celles qui sont là depuis un certain temps, c'est vrai qu'elles ont beaucoup connu des échecs en équipe de France. Et celles qui arrivent, notamment beaucoup de jeunes ont gagné des championnats d'Europe et des championnats du monde dans les catégories U17, U19 et U20. Donc peut-être s'appuyer dessus maintenant. Se pose peut-être moins de questions que celles qui sont là aujourd'hui et qui peut-être ont été dans la difficulté. Je pense que la deuxième chose, c'est que il faut arriver dans la compétition sans se mettre trop de pression. Je pense que les filles ont tendance par moment à avoir un peu trop de pression et elles ont du mal à sortir de tout ça. Mmh. Elles jouent peut-être le match un petit peu avant aussi. Il faut savoir que depuis maintenant 3 ans, cette équipe de France a plus connu des matchs amicaux que des matchs officiels à enjeu.
Oui, c'est vrai.
Donc c'est tout ce qui va se passer dans quelques jours, rentrer dans une compétition officielle et puis faire abstraction de tout ce qui va se passer autour. Mais aussi en même temps s'en servir comme force. Parce qu'on est en France et qu'à partir du moment où elles vont réussir à avoir des résultats derrière, c'est sûr que ça va suivre et ça va les booster.
Et ça va les aider. Le début de la Coupe du Monde, ce sera vendredi contre la Corée du Sud au Parc des Princes. Olivier Chauveny, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir.
Bon, merci à vous, avec plaisir.
Bonne continuation pour la rentrée prochaine, pour le mois de juillet, le mois d'août, avec le Paris Saint-Germain. Bonne saison l'année prochaine. Merci beaucoup.
Merci bien.
C'est déjà terminé. Merci à Grégoire à la réalisation. Merci à vous, messieurs, dames, pour la première de Coraline. Retrouvez demain dès 7h Rémi Souloumiac, Isabelle Honneil et Corinne Saint-Félix. À 9h, Vivante Église avec Emmanuel Pella. N'oubliez pas l'équipe de France féminine, l'équipe de France masculine vendredi et samedi, et surtout le Stade Toulousain samedi soir contre La Rochelle. Ce sera à Bordeaux. On se retrouve lundi, nous. Bonne semaine avec Radio Présence. Au revoir.
Une invitation au dialogue, à la parole, un échange. Au micro.